Alors, je pense que nous pouvons conclure que ce transfert des ressources vers les mieux lotis existe. Il existe pour les pays développés et j'attends d'entendre des collègues suisses, ils estiment que cette hypothèse se vérifie ici. Et il faudrait peut-être aussi parler du transfert de ressources du cercle tout à fait extérieur, le cercle 4, vers le cercle 3. Il a été très longtemps tabou de parler des élites du tiers-monde. Les chercheurs du Nord en particulier avaient des réticences à parler de ces élites parce que dans les années 60-70, on mettait beaucoup d'espoir dans ces élites. À mon avis, éviter de parler de ces élites, c'était pratiquer une certaine forme du racisme à rebours. Parce que cela suppose que ces élites seraient très différentes du commun des mortels dès lors que la possibilité de se procurer pouvoir et profit se présenterait, qu'ils se comporteraient différemment du commun des mortels. Je vous dis en passant qu'il y a un livre, à mon avis, intéressant mais très très vicié, qui est le livre de Pascal Bruckner qui s'appelle « Le sanglot de l'homme blanc », on en a parlé tout à l'heure, dénonce ces illusions qu'on avait mises dans les élites du tiers-monde et qui a, je crois, raison de le faire, mais qui ne comprend absolument rien à un certain nombre d'autres problèmes. Mais il est vrai qu'on ne voit pas mourir de faim ou de misère des gens dans des casernes, les banques et les ministères du tiers-monde. Il me semble que c'est un fait et on voit surtout la misère, paradoxalement, dans les campagnes parmi les paysans producteurs. Alors, il y a aussi beaucoup de mécanismes qui font qu'il y a un transfert de ressources des moins bien lotis, donc le cercle 4 dans le tiers-monde, vers le cercle 3, vers ces élites, parce que vous savez que les cultures que produisent ces paysans sont extrêmement mal rémunérées. On a calculé, par exemple, que les paysans de la Haute-Volta qui produisent des haricots verts pour le marché européen sont rémunérés peut-être à 5% du prix final au consommateur. Mais que dans leur propre pays, il y a déjà pas mal de prélèvements au niveau des transporteurs, de ceux qui commercialisent, de ceux qui transportent, etc. etc. Donc, il y a des ponctions des ressources qui sont opérées par les élites sur les masses du tiers-monde qui s'appauvrissent de plus en plus. Alors, il faudrait peut-être essayer de parler des solutions. Moi, je n'en ai pas de miracle, c'est toujours la question qu'on pose, que faire? Et il faudrait peut-être qu'on se mette ensemble pour écrire un livre qui sera une réponse longue à la question courte, que faire? Mais je pense qu'on peut peut-être partir de ces images de cercle et essayer de nous interroger sur la direction de ce que j'appellerais les flèches du pouvoir. Les flèches du pouvoir qui font que les ressources partent du 4 vers le 3, d'où ils partent vers le 2 et le 1 ensemble, et au sein du 2, ça part du 1, et évidemment, il y a de plus en plus de choses qui se concentrent ici. Est-ce qu'on pourrait inverser la direction de ces flèches du pouvoir? Et est-ce que ça n'est pas la tâche d'organisations comme les 13 organisations qui ont organisé cette journée? Est-ce que ça n'est pas ce que nous devrions avoir à cœur de faire? D'abord, les relations entre le cercle 1 et 2. Je crois que si nous permettons que toute la base agricole et paysanne de nos pays riches, industrialisés, si nous permettons que cette base s'effrite au point de devenir, comment dire, inexistant et au profit de quelques très grosses exploitations très concentrées, je pense que nous allons en payer tous le prix en tant que consommateurs. Les prix alimentaires ne vont pas rester ce qu'ils sont aujourd'hui. Et si mon hypothèse sur le désir du gouvernement américain de négocier avec un nombre de producteurs beaucoup plus réduit se confirme, cela veut dire que les prix alimentaires seront plus élevés. À ceci près, qui pourrait devenir nécessaire aux États-Unis et peut-être en Europe, je ne sais pas, de faire deux prix. On en discute maintenant dans le ministère de l'Agriculture américaine. Autrement dit, un prix des céréales, en particulier pour le marché intérieur, un autre prix pour le marché mondial. S'il le faut, et s'il y a trop d'agitation sociale, on a toujours les moyens, dans les pays du centre, de protéger la périphérie du centre, le cercle 2, contre des sauts de prix trop élevés. Et on le fera si ça devient socialement nécessaire. Mais il y aurait un autre moyen peut-être de nous protéger, et ce serait d'insister et de militer pour que nos petits agriculteurs aient le droit de vivre et que nos gouvernements ne puissent pas simplement traiter avec un petit nombre de très grosses entreprises. Je dois vous dire en toute honnêteté que je n'ai pas trop d'espoir dans ce sens aux États-Unis. Ce n'est pas que les groupes militants manquent, mais c'est très très difficile d'arrêter cette énorme machine qui a déjà, vous l'avez vu en l'espace de 4 ans, accaparé encore un tiers de tous les revenus agricoles. Je ne sais pas si on peut arrêter cette machine, mais je crois qu'il faut en tout cas être conscient de ce transfert des ressources des petits vers les grands. Et nous allons tous souffrir de la variabilité des prix s'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent. Alors, est-ce qu'on peut inverser la direction des flèches du pouvoir entre le cercle grand périphérie et centre? Je ne sais pas, dans la mesure où, malheureusement, nous, en tant que consommateurs, nous avons aussi peut-être intérêt à ce que nous ne payions pas les produits du tiers-monde à leur juste prix. Parce que si déjà les marchands de chocolat suisses ou les marchands de café nous ont pas fait profiter des baisses des prix des matières premières, qu'est-ce que ça serait si ces matières premières augmentaient? Ça veut dire que les prix pour le consommateur dans les pays industrialisés vont augmenter aussi. Alors là, je voudrais être réaliste. Il me semble que la grande masse des consommateurs dans les pays occidentaux ne verrait pas d'un très bon œil de payer, de rémunérer les produits du tiers-monde à un prix beaucoup plus juste. Ça, c'est à se poser la question. Alors, est-ce que...
Maman, maman, t'as pas un franc? Je voudrais tellement m'acheter une glace. Toutes les 62 secondes, un million de dollars se dépensent par le monde, de par le vaste monde, pour la fabrication des armes. Quand on apprend cela, douce et tendre Isabelle, on ne demande pas les verres aux Isabelle, un franc à sa maman pour acheter une glace. Maman, maman, je veux l'avion. L'avion tout bleu dans la vitrine. Le stock d'armes, le stock des armes atomiques suffirait pour toujours à gommer toute vie sur la planète petit. Quand on apprend cela, doux et tendre Frédéric, on ne demande pas mais féroce Frédéric à sa maman l'avion qui est dans la vitrine. Maman, maman, j'ai mal au ventre. Maman, pardon, j'ai fait au lit. 400 000 savants et techniciens s'agénient tous les jours à perfectionner quoi? Ce potentiel-là de destruction de quoi? De la vie, la planète. On ne se salit plus, vive et rose Caroline, quand on apprend cela. Douce et tendre Caroline, et on se plaint pas d'un mal de vent, de rien du tout. Maman, maman, je veux plus manger. Maman, maman, c'est pas très bon. 17 000 enfants meurent de faim chaque jour. Alors, fais comme tu veux.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Pleine Lune sur Radio Zone. C'était un petit intermède avec Yvette Terola, mais maintenant nous reprenons l'écoute de la conférence de Suzanne Georges, à qui profite la crise alimentaire.
Est-ce qu'il faut être complètement désespéré? Est-ce que, par exemple, par les négociations entre le Nord et le Sud, on peut espérer quelque chose? Je ne sais pas où vous en êtes, mais moi, je suis complètement dégoûtée par ces négociations. Je trouve que depuis 20 ans, et en particulier depuis 10 ans, on tourne autour du cadavre du nouvel ordre économique international, et que les pays riches n'ont visiblement pas envie de faire la moindre concession. Les États-Unis l'ont encore prouvé à la dernière conférence de la CNUSED qui a eu lieu cet été, en Yougoslavie. Et quand j'ai pris connaissance de la déclaration finale du président de la CNUSED, j'étais absolument effarée. Voilà ce qu'il a dit. Toutefois, si nous n'avons pu parvenir à toutes les solutions appropriées, nous avons préservé l'esprit constructif de dialogue. Le changement des relations économiques injustes n'est pas l'affaire d'une seule conférence et s'inscrit dans un processus plus long. Et mon commentaire là-dessus, c'est que ce processus plus long se mesure réellement en temps géologique. Et il me semble que les pays du tiers-monde auraient intérêt maintenant, je ne sais pas s'ils auraient le courage de le faire, mais si je régissais le monde et je pouvais prendre les grandes décisions politiques, je vous assure que je boycotterais ces conférences désormais. Je voudrais faire le calcul de tout ce que les pays du tiers-monde ont investi en voyages, en préparation de ces conférences, en fonctionnaires, en temps, en efforts, des pays qui n'ont pas tellement de ressources que ça et qui ont dû passer leur existence dans ces conférences internationales qui n'ont été que des échecs. Mais pourquoi je dis échec? Parce que j'emploie le vocabulaire dominant. Et c'est un tort. Il faudrait au contraire parler de succès. Ces conférences pour les nantis ont été un succès formidable. Imaginez que vous faites parler les pays du tiers-monde pendant 10 ans, en leur faisant investir là-dedans leur temps, leurs hommes, leur énergie, etc., et qu'ils n'obtiennent rien. C'est merveilleux. C'est un succès fou. Ça marche encore. C'est absolument extraordinaire, mais c'est comme ça. Alors, moi, je trouve que le moment est venu de boycotter ces conférences et de mettre les économies qui seraient réalisées de cette façon dans des rencontres sud-sud, dans des recherches, car il est honteux de voir que ces pays du tiers-monde n'ont même pas mis sur pied des antennes de recherche auprès des non-alignés ou auprès du groupe des 77. Ils n'ont même pas une antenne de recherche pour étudier les politiques du Nord ou pour étudier comment on pourrait rendre les économies du tiers-monde plus complémentaires que concurrentes, etc., etc. Il n'y a rien. Ils ont investi tout dans le Nord-Sud et je dirais que ça, c'est une victoire formidable pour les nantis, pour les pays riches et pour le centre du centre, les avoir obligés à investir là-dedans et avoir négligé tout ce qui aurait pu réellement améliorer leur sort. Donc moi, je ne crois pas du tout à ces conférences et je pense qu'il y aurait quelque chose d'encore plus radical à faire, mais là, je le dis en passant parce que vous me direz, c'est totalement farfelu, mais j'ai constaté que quand le Mexique avait failli ne pas pouvoir rembourser sa dette, on a trouvé une solution pour le Mexique dans les 15 jours. Alors, si les pays du Nord avaient vraiment un intérêt à proposer un nouvel ordre économique au tiers-monde, comment pourrait-on les obliger à le faire? Eh bien, peut-être en reniant collectivement la dette. Alors ça ferait trembler un certain nombre. Si Chase Manhattan était menacé de faillite parce que cette banque a fait de très mauvais placements dans le tiers-monde et est très exposée, eh bien, je vous assure, si Chase Manhattan avait un petit problème, il y aurait un nouvel ordre économique mondial sous 8 ans. Mais ça, je pense que c'est farfelu de le dire parce que les gouvernements du tiers-monde n'auront probablement jamais la solidarité et le cran, de faire cela. Bon.
Gloria.
carcará. Pega, mata e come, carcará. Não vai morrer de fome, carcará. Mais coragem do que homem, carcará. Pega, mata e come, carcará. Lá no sertão é um bicho que voa que nem avião. Ou é um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando. Carcará, vai fazer sua caçada. Carcará, come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará, mesmo assim não passa fome, os burregos que nascem na baixada. Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Carcará é malvado, é valentão. É a águia de lá do meu sertão. Os burregos novinho pode andar. Ele puxa no imbigo e até matar. Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come.
Alors, comment peut-être tout de même ne pas finir sur une note totalement de désespoir? Il me semble que les solutions qui ont été cherchées au problème de la faim depuis de longues années se sont surtout passées entre les deux centres, pas exactement comme les marchés passent entre les deux centres, exactement comme les transnationales existe ici quand ils s'installent, traitent avec cela, avec le centre de la périphérie, qui trouve naturellement son compte à ce genre de choses. On a négocié des aides alimentaires de centre à centre. Enfin, tout s'est passé entre les États. Et pour inverser la direction des flèches du pouvoir, il me semble que ce que nous avons à faire, des gens comme nous, c'est d'essayer de contrer cette tendance et de saisir toutes les occasions possibles et imaginables pour faire des alliances entre les cercles de l'État, c'est-à-dire entre les deux périphéries. Je pense que les organisations, comme la déclaration de Berne, le font. Je connais peut-être moins bien les autres organisations suisses qui sont ici, mais il me semble que c'est vraiment la seule voie du salut. Chacun de nous devrait mettre à profit toutes les occasions de voyage pour rencontrer des camarades dans le tiers-monde et connaître leurs besoins et peut-être en rentrant arranger quelque chose. Vous savez, je voyage pas mal en Europe et je vois de plus en plus d'exemples, d'initiatives locales qui me paraissent tout à fait heureuses et qui sont le fruit de voyage. Je vous en raconte une simplement, deux personnes dans la région de Bordeaux qui ont rencontré lors d'une manifestation religieuse des voltaïques et qui ont discuté et qui ont dit « Bon, ben, vous auriez besoin de croix, votre région c'est combien de personnes ?»« Ben, à peu près 50 000 personnes, tiens, nous aussi dans les entre-deux-mers de Bordeaux, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose ensemble. » Et à partir de là, en intéressant d'abord la communauté catholique, mais ensuite les municipalités, il y a 15 municipalités là, petites, mais 3-4 000 personnes, et puis ensuite les commerçants, les collectivités locales, etc., ils sont arrivés, avec les partenaires voltaïques, à équiper un certain nombre de puits, de dispensaires, etc., sur une région qui comporte à peu près autant d'habitants. Voilà, c'est un tout petit exemple, mais c'est le fruit d'une initiative totalement locale qui n'est liée à rien. Enfin, ça pourrait être une initiative d'une organisation nationale comme Frères des Hommes, Terre des Hommes, Déclaration de Berne, etc. Mais je crois que c'est un exemple de ce que nous pouvons faire maintenant parce que nous voyageons, parce que le monde n'est plus réduit à notre pays ou à l'Europe ou au Nord. Et tout ce qui sera possible de faire, chacun à sa place, pas seulement ceux qui voyagent, mais je pense aux chercheurs et aux universitaires, par exemple. Il va y avoir pas mal d'étudiants ici. C'est frappant de constater que la recherche agricole alternative a fait d'énormes progrès. Vous savez, on sait ce que c'est maintenant que l'écologie. On ne fait plus que des recherches de type révolution verte sur des plantes qui ont besoin de beaucoup d'engrais, de pesticides, enfin qui sont très coûteuses à cultiver. Il y a des stations de recherche, une ici, une autre là, enfin des gens qui travaillent avec des paysans. Et pourtant, ces initiatives qui ne sont plus du tout marginales, c'était le cas peut-être il y a 5 ou 10 ans, mais ça n'est plus marginal maintenant. Et pourtant, ces recherches ne sont pas groupées. On n'a pas vraiment influencé les grandes instances de recherche agricole, genre CIMIT au Mexique, IRI aux Philippines, ou même l'INRA en France. Est-ce que des chercheurs ne peuvent pas se grouper pour que ces efforts, appelons ça écolo, biolo, ce que vous voudrez, mais pour que ça ne devienne pas une véritable force politique et que ça n'influence pas notre coopération avec le tiers-monde? Je pense que chacun de vous, dans vos professions, vous pouvez imaginer des façons de faire des alliances périphérie-périphérie. Mais il me semble que si nous allons arriver à quelque chose, c'est comme ça que nous allons le faire. Mais sans oublier que nous sommes dans le centre, pour la plupart d'entre nous, peut-être certains d'entre vous vont retourner dans vos pays du tiers-monde, mais la vaste majorité des gens ici, nous sommes dans le centre. Et ceci nous donne une responsabilité particulière, au-delà des alliances que nous pouvons faire avec la périphérie du tiers-monde. Et je crois que cette obligation, c'est de constater que ce sont nos propres instances qui pèsent le plus sur les pays du tiers-monde et en particulier sur leur périphérie. Ce sont nos institutions qui rendent la vie encore plus misérable pour les plus misérables. Songez que le paysan brésilien est maintenant directement affecté par les décisions du Fonds monétaire international. Et il sait ce que c'est que le FMI. Qui peut imaginer il y a 10 ans qu'un paysan dans le Pernambouc saurait ce que c'est que le FMI? Eh bien, aujourd'hui, il y a une grève de 200 000 travailleurs du sucre parce que le FMI exige qu'on cultive du sucre pour l'exporter, même quand ça n'est pas rémunérateur, même quand c'est pour rembourser la dette, de manière à payer le FMI de toutes les banques privées, de tout ce qu'ils ont prêté au Brésil. Bien. Alors maintenant, nos institutions pèsent encore plus directement sur le tiers-monde et surtout sur la périphérie du tiers-monde, les pauvres du tiers-monde, beaucoup plus qu'il y a 10 ans. Et ça va pour les transnationales, ça va pour nos institutions comme la Banque mondiale, le FMI, etc. Alors là, nous avons encore une grosse responsabilité d'essayer de faire en sorte que ces institutions et que nos gouvernements adoptent leur politique de coopération en conséquence. Voilà, je n'ai pas vraiment pu vous dire que faire, mais j'espère que j'ai prouvé l'hypothèse que la crise alimentaire profite à certains et pas à d'autres, et que notre devoir à tous, ou notre effort, notre ardente obligation, comme on a pu le dire, devrait être d'essayer de renverser la direction de ces flèches du pouvoir. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.
Ma question est la suivante. J'aimerais savoir si vous avez été alerté.
Pode me prender. Podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro.
Estou
Vous êtes à l'écoute Radio Pleine Lune sur Radio Zone 101,4 MHz. Nous venons d'écouter une conférence qui avait été prononcée par Suzanne George, économiste américaine, mais pas n'importe laquelle, lors du Forum contre la faim le samedi 15 octobre 1983 à Lausanne. J'espère que vous avez eu du plaisir à l'écouter. Et je vous rappelle que cette émission va repasser en continu à partir de maintenant, enfin dans un moment, jusqu'à demain soir. Donc si vous n'avez pas tout bien compris les raisonnements de Suzanne George, vous pouvez écouter et réécouter cette conférence tout tranquillement jusqu'à demain soir. Je voudrais vous parler maintenant des livres que Suzanne George a écrits. Suzanne George, à ma connaissance, en a écrit 3. Le premier des livres qu'elle a écrit est assez connu. Il s'appelle « Comment meurt l'autre moitié du monde ». C'est un livre qui a paru il y a déjà quelques années. En 1976, c'était un moment où ses thèmes n'étaient pas aussi à la mode que maintenant et où son livre était un livre qui a amené du nouveau, disons, sur ce thème. Elle a contribué à démystifier toute une série de raisons qui étaient données pour la faim, comme la surpopulation, la pauvreté qui aurait eu pour cause que la pauvreté, etc. Donc ce livre, Comment meurt l'autre moitié du monde, est un livre très bien fait, très agréable à lire et qui, moi, m'avait beaucoup, beaucoup apporté quand je l'ai lu. Ensuite, ce livre, Comment meurt l'autre moitié du monde, vous pouvez le trouver aux éditions Robert Laffont, dans la collection Réponse écologique. Pardon. Ensuite, Suzanne George, après avoir fait cet ouvrage, qui est, disons, ce qu'on appelle un peu un ouvrage de vulgarisation, a publié sa thèse, qui s'appelle Les stratèges de la faim, aux éditions Grunauer à Genève. C'est un ouvrage également palpitant, enfin, pour les gens qui s'intéressent à ce genre de problèmes. Il y a des chapitres notamment très très bien faits sur la Nestlé et par exemple sur ce que signifie la stratégie de l'aide alimentaire des États-Unis. Suzanne George, dans tous ses ouvrages, analyse continuellement les structures du pouvoir et comment donc les pays riches et les organisations internationales et les grands gouvernements des grands pays riches ont véritablement une stratégie de la faim, qui est donc un moyen de domination du monde comme un autre, enfin justement pas comme un autre. Enfin, Suzanne George n'a pas pensé que aux universitaires, bien qu'elle soit très très calée, comme vous avez pu vous en rendre compte. Elle a également publié récemment un livre chez Maspero qui s'appelle « La faim dans le monde, c'est pour débutants ». C'est un livre qui se présente presque comme une bande dessinée qu'elle a fait avec un dessinateur qui s'appelle Nigel Paige. Et c'est un livre qui est tout à fait agréable, facile à lire, que même des jeunes enfants, enfin je pense à partir de 12-13 ans, peuvent très très bien lire. Et qui comporte, disons, un résumé très bien simplifié de ce qu'il y a dans les autres livres de Suzanne George. Donc, je vous rappelle les titres des 3 livres de Suzanne George. Le premier, c'est « Comment meurt l'autre moitié du monde » aux éditions Robert Laffont. Ensuite, « Les stratèges de la faim » aux éditions Grunauer. Et « La faim dans le monde » pour débutants, aux éditions Maspero. Vous trouverez ces livres, en tout cas, au magasin du Monde qui se trouve 5 boulevard Saint-Georges, et vous les trouverez certainement également à la librairie alternative du kiosque du boulevard, au boulevard du Pont d'Arve, à Genève, au numéro 25. Voilà. Et maintenant, on va écouter encore un peu de musique brésilienne.
minha mãe, meu pai, meu povo. Eis aqui tudo de novo. A mesma grande saudade, a mesma grande vontade, minha mãe, meu pai, meu povo. Minha mãe, meu pai, meu povo. Eis aqui tudo de novo. A mesma grande saudade, a mesma grande vontade, minha mãe, meu pai, meu povo. Minha mãe me deu ao mundo de maneira singular, me dizendo uma sentença pra eu sempre pedir licença, mas nunca deixar de entrar. Minha mãe, meu pai, meu povo, eis aqui tudo de novo. A mesma grande saudade, a mesma grande vontade, minha mãe, meu pai, meu povo. Minha mãe, meu pai, meu povo, eis aqui tudo de novo. A mesma grande saudade, a mesma grande vontade, minha mãe, meu pai, meu povo. Meu pai me mandou pra vida num momento de amor. Aquele segundo, grande como a dor do mundo, me acompanha onde eu vou. Minha mãe, meu pai, meu povo, eis aqui tudo de novo. A mesma grande saudade, a mesma grande vontade, minha mãe, meu pai, meu avô. Minha mãe, meu pai, meu avô. Eis aqui tudo de novo. A mesma grande saudade, a mesma grande vontade, minha mãe, meu pai, meu avô. Meu povo, sofremos tanto, mas sabemos o que é bom. Vamos fazer uma festa, noites assim como esta podem nos levar pra o tom. Minha mãe, meu pai, meu avô, eis aqui tudo de novo. A mesma grande saudade, a mesma grande vontade, minha mãe, meu pai, meu avô. Minha mãe, meu pai, meu avô. Eis aqui tudo de novo. A mesma grande saudade, a mesma grande vontade, minha mãe, meu pai, meu avô. Minha mãe, meu pai, meu avô.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Pleine Lune sur Radio Zone. Avant de terminer cette émission, on va vous lire une petite citation de Suzanne Georges qui se trouve à la fin de son livre De quoi meurt l'autre moitié du monde. C'est toujours en réponse à la question « Que faire ?». Suzanne Georges pense avec raison qu'il y a beaucoup de gens donc en Europe et aux États-Unis qui se sentent concernés par la situation mondiale et le fait que des milliers de gens ne mangent pas à leur faim, etc., etc. Et qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire quelque chose, et il y a beaucoup de gens qui sont prêts aussi à étudier, à avoir une production intellectuelle, disons, à ce sujet, parce qu'ici, on ne voit pas très bien ce qu'on peut faire d'autre. Alors voilà, on va vous lire un petit bout des conseils que Suzanne Georges veut donner aux personnes qui veulent étudier, disons, sur ce problème de la faim.
Avant de commencer, vous ne devez pas oublier une chose fondamentale. Étudiez les riches et les puissants et non les pauvres et les défavorisés. Tout travail bien fait effectué sur les organisations paysannes, sur la résistance des petits cultivateurs à l'oppression ou sur les ouvriers du complexe agroalimentaire peut invariablement se retourner contre eux. L'un des meilleurs anthropologues français apprit avec chagrin que ses travaux sur l'Indochine étaient lus avec passion par les bérets verts. Le problème est encore plus grave, politiquement et moralement, lorsque les chercheurs ont la confiance de leurs sujets. Ces derniers leur livrent alors des informations que leurs adversaires ne devraient pas connaître, mais finiront par apprendre. Ne favorisez pas ce genre de recherche. En revanche, les informations manquent sur ceux qui détiennent le pouvoir et qui tirent les ficelles. À mesure que leurs stratégies et leurs déclarations publiques deviennent plus subtiles, la nécessité d'une meilleure information se révèle fondamentale. Si vous vivez dans un pays développé, vous disposez de tous les moyens sociaux et culturels nécessaires pour rencontrer les puissants sur leur propre terrain et leur arracher les informations utiles. C'est aux pauvres de faire eux-mêmes l'analyse de leur propre situation. Ils connaissent déjà les problèmes de leur propre vie au jour le jour, et si vous voulez véritablement les aider, la meilleure chose à faire, c'est de les informer clairement sur les méthodes présentes et futures de leur oppresseur.
Voilà, moi j'aime beaucoup cette citation parce que je trouve qu'elle donne une ligne, disons, pour les tiers-mondistes, dont je considère que je fais partie, c'est pas toujours, on n'a pas toujours la vie facile, on se fait beaucoup critiquer de toutes parts. Et je trouve que la ligne de Suzanne George est une des plus intelligentes et qu'elle est assez, disons qu'elle est, assez, c'est une position qui est assez inattaquable, je trouve, et que elle-même, du reste, poursuit avec beaucoup de cohérence à travers ses ouvrages et à travers ces différentes actions. Voilà, notre émission est bientôt à sa fin. On va écouter encore un petit peu de musique, mais avant, je vais rapidement vous donner les titres des disques qu'on a écoutés ce soir. Je retrouve mes petites feuilles. On a écouté tout d'abord Carla Bley, Valse sinistre. Ensuite, il y a eu Archie Shepp et beaucoup d'autres musiciens qui interprétaient Attica Blues. Ensuite, il y a eu une chanson de Barbara Dane qui s'appelait I Don't Want Your Million. Ensuite, il y a eu une chanson d'Yvette Terola, Maman, Maman. Ensuite, il y a eu, pardon, j'avais encore oublié, entre-temps, il y avait eu le groupe Djourdjoura, Les femmes algériennes. Et puis après, nous avons entendu deux chansons interprétées par Zélia Barbosa, qui est une chanteuse brésilienne. C'était Carcara et Opinião. Tout à l'heure, nous avons entendu encore une fois Maria Bethânia et Cayetano Veloso. Et maintenant, nous allons terminer, toujours avec le Brésil, avec Chico Buarque.
Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida.
É a conta menor que tiraste em vida.
É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio.
É a parte que te cabe deste latifúndio.
Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida.
É a terra que querias ver dividida.
É uma cova grande, para teu pouco defunto, mas estarás mais anjo. Estavas no mundo,
estarás mais anjo que estavas no mundo.
É uma cova grande para teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo.
Porém mais que no mundo te sentirás largo.
É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. É a conta menor que tiraste em vida, é a parte que te cabe deste latifúndio. É a terra que querias ver dividida. Estarás mais anjo que estavas no mundo, mas a terra dada não se abre a boca.
De Radio Pleine Lune, on écoute Zélia Barbosa.
Manhã parece, carece de esperar também, para o bem de quem tem bem, de quem não tem, vim tem. Pedro pedreiro fica assim pensando, o tempo passa e a gente vai ficando pra trás. Esperando, 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 esperando o sol, esperando o trem, esperando o aumento desde o ano passado para o mês que vem. Pedro pedreiro penseiro esperando o trem. Manhã parece, carece de esperar também, por um bem de quem tem bem, de quem não tem, vim tem. Pedro pedreiro espera o carnaval e a sorte grande do bilhete pela federal todo mês. Esperando, 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 esperando o sol, esperando o trem, esperando o aumento para o mês que vem. Esperando a festa, esperando a sorte, e a mulher de Pedro tá esperando o filho pra esperar também. Pedro pedreiro penseiro esperando o trem. Manhã parece, carece de esperar também, por um bem de quem tem bem, de quem não tem, vim tem. Pedro pedreiro tá esperando a morte ou esperando o dia de voltar pro norte. Pedro não sabe, mas talvez no fundo espere alguma coisa mais linda que o mundo, maior do que o mar. Mas pra que sonhar, sei lá, no desespero de esperar demais. Pedro pedreiro quer voltar atrás, quer ser pedreiro, pobre nada mais, sem ficar. Esperando, 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 esperando o sol, esperando o trem, esperando o aumento para o mês que vem. Esperando um filho pra esperar também, esperando a festa, esperando a sorte, esperando a morte, esperando o norte, esperando o dia de esperar ninguém. Esperando, enfim, nada mais que além, que a esperança aflita, bendita e infinita do apito do trem. Pedro pedreiro penseiro esperando, Pedro pedreiro penseiro esperando, Pedro pedreiro penseiro esperando o trem.